non, il y a une vie après normal.
Gaspard Koenig, bonjour.
Bonjour.
Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation au micro de Transistor, la web radio de l'École Normale Supérieure de Lyon, que d'ailleurs vous connaissez très bien puisque vous êtes un ancien de la maison, admis en 2002 à l'école. Vous choisissez à cette époque la philosophie, discipline dans laquelle vous excellez puisque vous êtes agrégé de philosophie. Alors plutôt que de continuer, je ne vais pas faire ici une immense présentation de votre jeune parcours, mais qui a déjà pourtant de quoi impressionner, car le but de cette émission est de vous laisser bien entendu la parole. Pour commencer, je dirais que vous êtes le président du think tank Génération Libre, un think tank d'orientation libérale. Pourriez-vous revenir avec nous sur votre vision du libéralisme, inspiré je crois des grands libéraux du 19e siècle ?
Oui, donc le but du think tank est en effet d'abord de réhabiliter le libéralisme comme une vraie philosophie politique à part entière, et ensuite de faire un travail d'intellectuel au fourneau, si je puis dire, c'est-à-dire à partir d'une doctrine assez claire, faire travailler des experts, des économistes, des sociologues, des juristes, des philosophes, etc., sur des sujets de politique publique auxquels on doit répondre par des propositions très précises et très concrètes. Et donc ça, l'intellectuel ne peut pas le faire tout seul. Moi, je fais un peu la doctrine, je pose les bases de ce que je pense devoir être le libéralisme associé d'aujourd'hui. Mais ensuite, je suis entouré de plein de gens. C'est comme ça que fonctionne un think tank. Et il me semble que c'est quelque chose qui manquait en France, enfin qui manque en France. Il y a des think tanks, bien sûr. Mais on a toujours cette vision de l'intellectuel comme quelqu'un qui va faire son système tout seul, qui va faire son système du monde. Et je pense que du coup, les philosophes qu'on a aujourd'hui et qu'on voit sur les plateaux sont assez coupés, ne serait-ce que de l'innovation sociale ou économique. Ils ne savent pas trop ce que c'est que le big data, ils ne savent pas trop ce que c'est que le transhumanisme, ils ne savent pas trop ce que c'est que le monde post-salarial, l'économie collaborative, ça leur échappe un peu. Et c'est normal, on ne peut pas tout savoir et donc il faut travailler avec des gens et ensuite être capable d'aller parler avec des techniciens. Nous, on est reçus... c'est pas au cabinet, par exemple, du ministre de l'économie, on va parler. Alors évidemment, ils en connaissent un peu plus que nous, mais on est néanmoins capable de parler selon leurs termes et de pas en rester à un discours très général, mais sans impact, parce que trop général et ne rentrant pas dans les propositions concrètes. Donc ensuite, nous, on rentre article de loi par article de loi, amendement par amendement, on est capable d'agir. Alors ensuite, sur le libéralisme lui-même, j'avoue que quand j'étais à l'école, j'étais plutôt deleuzien, un peu comme tout le monde, je dirais. J'avais fait d'ailleurs ma maîtrise sur Deleuze. Et c'est en allant en année d'échange aux États-Unis, en année d'échange avec l'ENS à Columbia University, que j'ai découvert la philosophie libérale classique, française et britannique du XVIIIe siècle. Et j'avoue que je reproche un peu aux études philosophiques en France, très performantes par ailleurs, l'absence totale d'enseignement du libéralisme en tant que tel. Bien sûr, on a quelques cours sur Tocqueville, on a quelques cours sur Condillac, mais on ne nous présente pas cet mouvement d'idées comme ayant une cohérence, faisant un tout, étant d'ailleurs quelque chose de proprement français. Évidemment, tout le monde va avoir étudié la phénoménologie, le marxisme, le postmodernisme, etc., quand il sort de l'ENS. En revanche, le libéralisme, pas vraiment. Donc il faut, c'est pas masqué, mais c'est pas non plus une pierre obligatoire du parcours. Et beaucoup de gens passent sans l'avoir fréquenté. Et du coup, en ont, y compris chez des universitaires qui sont pourtant des puits de savoir, une image caricaturale. Et donc le libéralisme, je pense le meilleur texte qui a été écrit sur l'histoire du libéralisme, c'est celui de Foucault, dans ses cours de biopolitique, cette dernière leçon au Collège de France de 1979, où D'abord, il différencie les quatre grandes tendances du libéralisme, je ne vais pas revenir dessus, qui se déclinent en écoles très diverses et en pensées très diverses. Le libéralisme est extrêmement riche et compliqué, donc c'est difficile de résumer en un mot. Je dirais que pour moi, si je devais d'une phrase donner, une phrase un peu simplificatrice, donner ma vision du libéralisme, c'est le fait que l'État doive donner à chacun les moyens de son autonomie. Et donc, il y a une relation très forte entre l'État et l'individu. Il ne s'agit pas du tout de repousser l'État. Relation qui avait d'ailleurs été conçue par exemple par l'abbé Sieyès, par l'abolitionnaire français. L'État est au centre et l'individu à la périphérie. Et on abolit les corps intermédiaires entre l'État et l'individu, qui était d'ailleurs le grand problème du 19e siècle ensuite. Et le grand problème de Durkheim sur l'atomisation. Mais il me semble que conceptuellement, ça reste valide. puisque je m'adresse à des normaliens, et philosophes et compagnie, autant citer des textes. Il y a un texte qui, pour moi, également fait bien le sort à cette idée, qui est La question juive de Marx, où il parle de. Il dit que l'ambition des révolutionnaires français était de construire une monade, un individu qui se suffit à lui-même. Et Marx balaye ça de la main comme une folie. Je pense qu'en fait, cette folie doit rester un idéal régulateur. Bien sûr, on ne fera jamais un individu autonome, monade, etc. Mais néanmoins, si on se met ça en horizon de la politique publique, alors il y a un rôle important que l'État doit jouer pour permettre cette émancipation individuelle.
Et alors, très rapidement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, quelle différence assez forte entre la vague des années 80 avec l'idéologie néolibérale ? Quelle différence feriez-vous entre, puisqu'on est vraiment au niveau des sources et du fondement de ce qu'est le libéralisme dans ces deux idéologies ?
Je pense que le libéralisme des années 80, ce que Foucault, d'ailleurs, pour reprendre ce même texte, appelait le néolibéralisme, qui était vraiment axé sur l'idée que tout pouvait devenir marché et que le marché pouvait, par ailleurs, tout expliquer, aussi bien les mécanismes économiques que le mariage ou la famille, par exemple. Et ça reste, ou le système pénal. Ça reste une doctrine, je pense, très intéressante. Là, je vais écrire la préface de Capitalisme et Liberté de Milton Friedman, donc on est en plein dans cette idéologie-là. Et je me retrouve quand même sur énormément de ces propositions. Je trouve que c'est un texte, si on parle de celui-là par exemple, qui a vraiment inspiré cette vague des années 80, c'est un texte très très fort, très radical, absolument pas conventionnel, pas forcément très novateur d'ailleurs, parce qu'il reprend énormément de choses qui existent déjà chez John Stuart Mill, chez Turgot et d'autres, il le dit très explicitement, mais enfin qui forme une doctrine de 100 pages incroyablement puissante, et on comprend qu'elle ait pu donner de l'inspiration et de l'enthousiasme à des générations d'étudiants. Et c'est aussi, et on voit aussi l'impact que peut avoir un texte philosophique, bien supérieur à 1 million de réunions politiques. Et donc voilà. Mais ensuite, là où je me distinguerai de la doctrine friedmanienne, c'est que Friedman pense en termes de liberté négative absolue, quasiment, c'est-à-dire que chacun doit pouvoir être libre de faire tout ce qui ne nuit pas autrui, enfin, pour aller très très vite, et évacue presque complètement le problème de la liberté réelle, c'est-à-dire ce dont les gens, les moyens d'assurer cette liberté. Et à travers donc, des mouvements comme, par exemple, ce qu'a élaboré Rawls, puis Von Paris sur le réel libertarianisme, ça devient encore autre chose, mais est plus ancré dans cette idée que la liberté négative n'est rien sans la possibilité de réaliser à un moment donné les potentialités de notre liberté. Et donc tout ça paraît très abstrait, mais en fait, quand on prend ensuite politique publique par politique publique, de l'investissement, du private equity, jusqu'à la liberté d'expression en passant par l'éducation, une fois qu'on a un prisme philosophique très défini, ça donne des routes assez claires.
Et quel est le combat idéologique sur des points, alors justement, non, je vais reformuler. Plus concrètement, si on prend dans les exemples des réalisations et des productions de votre think tank, quels sont vos grands combats, vos grands chevaux de bataille ?
Le sujet qui monte énormément en ce moment et qui nous occupe beaucoup, c'est un rapport qu'on a publié il y a un an et demi, mais qui vraiment maintenant gagne en visibilité sur le revenu universel, c'est-à-dire l'idée, aussi basic income ou revenu de base. L'idée que l'État donne à chacun de quoi subvenir à ses besoins, à chacun, c'est-à-dire à tout individu, et de manière inconditionnelle, c'est-à-dire sans rien réclamer en échange et sans rien vérifier. Alors ça peut paraître très, très libéral, et effectivement, il y a des gens de tous les bords qui défendent cette idée. Il y a des égalitaristes qui pensent que c'est une manière d'égaliser donc, les conditions. Et puis il y a des technophiles qui pensent qu'avec la disparition programmée du salariat, l'État devra assurer un filet de sécurité d'autant plus solide pour éviter simplement le chaos social. Et puis il y a donc des libéraux qui s'inspirent encore une fois d'un chapitre de Friedman dans Capitalisme et Liberté sur l'impôt négatif, une notion qu'il n'avait pas inventée mais qu'il a vraiment remise au goût du jour, ou des textes de Thomas Paine à la Révolution française, et qui disent précisément pour assurer aux individus cette liberté, eh bien, il faut bien simplement le sortir de l'extrême pauvreté, éradiquer la misère. Et en fait, l'idée du revenu universel, c'est moins de donner à tous parce que chacun y aurait un droit de nature ou que sais-je, que la manière la plus efficace de lutter contre la pauvreté sans tomber dans des systèmes paternalistes, différenciants, fondés sur l'identité et le contrôle, qu'est aujourd'hui le système d'allocation français, qui manie des sommes gigantesques, qui va demander à chacun où il vit, avec qui il vit, ce qu'il fait, ce qu'il veut faire, qui lui dit ce qu'il doit faire, et qui sont en fait extrêmement, extrêmement humiliantes, extrêmement bureaucratiques. Et c'est d'ailleurs Foucault analysait cette politique de l'impôt négatif dans son cours sur le libéralisme, et on sent chez Foucault une vraie, un vrai intérêt pour cette idée, disant que ça libérait l'individu des procédures disciplinaires. Le pauvre des procédures disciplinaires, puisqu'on ne donnerait plus de l'argent au pauvre parce qu'il est pauvre, mais simplement parce qu'il est citoyen, comme à chacun d'entre nous. Et ensuite, le rôle sur cette idée, bon, qui paraît un peu fofolle, le rôle d'un think tank comme le mien est précisément de faire travailler un économiste, en l'occurrence quelqu'un qui a fait sa thèse sur le sujet, de modéliser ça en fonction du budget, des contraintes budgétaires actuelles de la France, et ensuite d'aller le vendre aux différents politiques. On était voir président de la commission des finances, des présidentiables, des gens du gouvernement, pour ensuite leur expliquer les détails et rentrer dans le très concret, quelle allocation ça remplace, qu'est-ce que ça remplace pas, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on fait des cotisations sociales, voilà, après on rentre dans la technique. Mais ça c'est une idée que nous portons avec beaucoup d'enthousiasme et qui est très mûre aujourd'hui. Après, on prépare un rapport qui je pense sera important sur les free schools, donc les écoles autonomes, comment faire pour tout en conservant une éducation publique, c'est-à-dire financée par l'État, dont les critères de sélection sont également décidés par l'État, les critères d'entrée dans les différentes écoles, hein, je parle du primaire et du secondaire, comment faire pour donner une autonomie très très forte aux chefs d'établissement ou d'ailleurs à n'importe qui souhaitant créer une école, de manière à différencier les processus pédagogiques en fonction des situations locales, des besoins des uns et des autres, et donc d'arriver à quelque chose de beaucoup moins uniforme et du coup de beaucoup plus normalement respectueux d'abord des individus et efficace et moins traumatisant que l'est la volonté d'uniformisation actuelle. Ça, c'est un autre exemple sur l'éducation. Sur la liberté d'expression, on a pu déjà publier des choses. On a une vision très premier amendement américain, c'est-à-dire l'idée de dire qu'il faut pouvoir tout dire pour pouvoir tout réfuter. Et donc, toutes les politiques répressives de ce gouvernement, mais comme de ceux qui l'ont précédé sur la liberté d'expression, au nom toujours de trucs très sympathiques, comme la lutte contre le terrorisme, le racisme et autres, ont pour moi des effets contre-productifs, pervers, très forts, d'abord en termes de liberté fondamentale, et ensuite même en termes d'efficacité. Ce n'est pas en fermant les comptes Twitter des sympathisants Daesh que vous allez amoindrir sa force idéologique. Au contraire, vous allez les renforcer, vous allez les pousser à la clandestinité. Et il faut toujours faire sortir les choses pour pouvoir aussi les réfuter. Et aujourd'hui, plus personne ne prend le temps de réfuter les gens. On ne réfute pas Dieudonné, on l'interdit. Alors que ce serait si facile de le réfuter.
Et donc, dans votre activité quotidienne, que l'on voit quand même très portée sur la réflexion, l'élaboration et même plus sur la synthèse de différents champs disciplinaires pour arriver à produire un contenu synthétique et que vous puissiez présenter aux politiques, je voudrais savoir qu'est-ce que vous ont apporté personnellement vos études à l'ENS et que retenez-vous de votre passage à Lyon ?
Oui, alors déjà, nos études, on les présente d'abord aux médias. C'est-à-dire les politiques, ça vient un peu en dernier. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un impact médiatique. Et ce que devrait faire un think tank, c'est poser les termes du débat dans l'opinion pour forcer le politique à se positionner. Donc par effet de levier, si je puis dire. Ensuite, je pense qu'il y a un très fort besoin chez les gens de doctrine. Il y a un besoin chez les gens de système. Ils ne peuvent plus que les politiques réagissent aux faits divers, suivant l'intuition du moment, le sentiment du moment, sans que plus personne ne comprenne d'où ils viennent et quelles sont les philosophies politiques qui sous-tendent leur action. Mais eux-mêmes n'ont plus aucune éducation de ce type, complètement à des années-lumière des grands textes qui sont censés les porter. Or, la différence est très forte avec un Guizot ou un Léon Blum qui savaient exactement d'où ils venaient et qui écrivaient par ailleurs des vrais livres, qui ne faisaient pas écrire par des nègres, et qui en plus avaient une réflexion politique de fond. Et donc les débats politiques, c'était des débats sur les principes. Une fois que les principes étaient décidés ou posés, eh bien bon, l'administration faisait le travail technique. Alors qu'aujourd'hui, c'est uniquement des débats sur la surface, les chiffres. Les gens ont vraiment un appétit très fort pour revenir aux principes. Moi, je vois très bien ce qu'on fait porte et intéresse, parce qu'on donne une grille de lecture où tout rentre, plus ou moins. ça peut évidemment des gens que ça agace prodigieusement, mais y compris les communistes par exemple. J'aime beaucoup parler aux communistes, aux vrais communistes, c'est-à-dire aux types aux éditorialistes de l'Humanité et autres, parce que contrairement aux gauchistes mous, les vrais communistes ont une vraie structure intellectuelle, connaissent leur histoire, savent parfaitement ce que sont les libéraux, donc les affrontent, mais respectueusement. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que ces études donnent, j'espère en tout cas, une certaine agilité intellectuelle, une capacité de lire un texte en diagonale, de passer très rapidement d'un sujet à l'autre, voilà. Mais donnent surtout la capacité de conceptualiser, et puis les références philosophiques nécessaires pour savoir en quelle direction aller sur chacun des sujets. Si je prends la liberté d'expression, par exemple, on a fait ce rapport sur la liberté d'expression, j'ai pas sorti de mon chapeau le fait qu'on devait pouvoir tout dire pour pouvoir tout réfuter. J'ai sorti de John Stuart Mill, Liberty, chapitre 2. Et donc c'est très important, et quand je suis un peu perdu et que je ne sais pas trop quelle position prendre, je retourne à mes classiques, alors, qui parfois se contredisent, mais ça donne des structures beaucoup plus solides. Sur la Banque publique d'investissement, on avait repris Turgot et son analyse des marchés des grains. Voilà. Et ça, c'est pas seulement de l'affichage ou du marketing, d'avoir un petit truc philo. Ça donne vraiment un sens à ce qu'on fait. Et en fait, c'est une des visions possibles, en tout cas, du rôle du philosophe. C'est-à-dire, si on veut être philosophe dans la cité, bah, voilà, on a son... Disons, ses opinions, son programme, sa doctrine qu'on travaille, mais ensuite on se retrousse les manches et on s'attaque aux sujets très concrets qui intéressent les gens dans la cité. Or, il est clair qu'aujourd'hui, comme le disait déjà Jean-François Revel il y a 60 ans ou 70 ans, l'université, la philosophie française ont tendance à s'égarer dans l'ultra-spécialisation, dans l'histoire de la philosophie, où chacun tire sa légitimité d'être spécialiste de la deuxième période de Heidegger ou que sais-je. Et que ça nuit en fait beaucoup à la pensée, et non seulement ça nuit à la pensée, mais que c'est en train de sortir la philosophie du champ du débat. La philosophie ne sort pas du champ du débat parce que les gens n'en ont pas envie, au contraire, mais parce qu'elle-même s'est tirée une balle dans le pied en s'ultra-spécialisant et en refusant de parler de la cité. Et en ne se donnant pas les moyens, d'ailleurs, souvent, de compréhension pour pouvoir parler de la cité. C'est bien joli de philosopher, mais il faut lire aussi le Financial Times tous les matins pour comprendre ce qui se passe dans le monde.
Pourriez-vous nous raconter plus en détail, puisque vous avez été plume de Christine Lagarde à la suite donc de votre agrégation, vous devenez assistant à l'université de Lille 3, et puis à cette période-là, donc en 2007, vous devenez plume de Christine Lagarde. En quoi consiste le métier de plume et avez-vous un souvenir marquant de cette période? Pourriez-vous nous en parler davantage?
Alors d'abord, c'est finalement quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire que parmi les plumes du gouvernement de cette époque-là, on faisait des dîners entre plumes parfois, et il y avait une dizaine qui avait à peu près le même profil que moi, c'est-à-dire normalien sachant écrire, s'ennuyant un peu à enseigner, ce qui était mon cas, et envie d'avoir une expérience différente. Et ce qui est amusant quand on est plume, alors en France c'est pas un vrai métier, donc on fait pas ça toute sa vie, notamment d'autres pays, hein, où speechwriter est quelque chose de beaucoup plus institutionnalisé. Mais bon, j'ai fait ça pendant 2 ans, et ce qui est formidable, c'est que vous touchez à tout et vous voyez... Enfin, très jeune, vous voyez un peu tout ce qui se passe. En l'occurrence, vous suivez une ministre quasiment tous les jours parce que vous êtes certes le plus junior du cabinet, mais en même temps, c'est vous qui écrivez ce qu'elle dit, donc forcément, vous avez un rapport assez personnel, assez proche. Vous exprimez en son nom, vous avez des fois raconté des anecdotes sur elle-même, donc forcément, il y a une petite symbiose. Et on apprend en année claire comment marche l'appareil d'État, la structure économique du pays, ce qui m'a d'ailleurs bien renforcé dans mes embryons de conviction libérale à l'époque. Et c'est très excitant en plus parce que, pour moi en tout cas, j'ai trouvé ça très excitant de voir je m'en cache pas, de voir les coulisses du pouvoir, d'être à l'Assemblée nationale, d'être à l'Élysée, d'être dans tous ces voyages à l'étranger. Voilà, donc c'est... Et puis il y a aussi, la dernière chose, c'est que dans un cabinet ministériel, il y a vraiment, comme les gens sont là pour un temps très court, qui sont attachés à une personne et non pas à un rôle hiérarchique. Du coup, c'est un peu comme un commando. Les gens travaillent la nuit, le week-end, on est peu nombreux, on sait encore une fois que c'est temporaire, on n'est pas là pour s'installer dans un poste. Et donc, on noue du coup des amitiés très très fortes, des amitiés presque militaires, quoi. On a des souvenirs de régiment. Et après, dans les métiers plus classiques que j'ai pu faire, c'est vraiment moins le cas. Là, c'est assez affectif, émotionnellement, humainement, c'est une très belle expérience, travailler dans ce genre d'endroit. Bon, en plus, Christine Lagarde est quelqu'un de que je respecte beaucoup et qui a une forte discipline personnelle, une vraie rigueur. Donc c'était d'autant plus agréable de travailler pour elle et pas pour un politicard issu du sérail.
Alors après, vous partez en 2009 à la BERD à Londres, donc la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, dont la mission est de faciliter la transition vers une économie de marché des pays d'Europe et essentiellement d'ex-URSS. Je voudrais savoir quel a été votre rôle au sein de cette institution et comment avez-vous vécu aussi le décalage entre France et Angleterre, l'autre grand pays du libéralisme.
Bonne question. Donc, d'abord, pour des raisons en fait personnelles, je voulais aller travailler à Londres. Et j'avais commencé par postuler pour un poste à The Economist, qui est un journal que je révère évidemment, parce que je n'ai pas obtenu. Donc, du coup, un peu par hasard, je suis retrouvé à la BERD. Et je trouvais ça intéressant d'avoir l'occasion de regarder un peu comment fonctionnait l'économie réelle. Et puis, ce qui était bien dans la BERD, c'est que c'est une banque publique fondée par la Cattali, donc qui répond quand même à des principes d'intérêt généraux, etc., où les gens ont une certaine formation intellectuelle. Ce n'est pas des purs traders qui sont là pour maximiser leur profit toute la journée. C'est des gens qui investissent dans des infrastructures en Arménie au Kazakhstan pour améliorer le fonctionnement de l'économie locale. Donc ça a un sens, quoi. C'est une banque qui a un sens. Et d'ailleurs, elle était plutôt bien conçue. Et encore là, il faut rendre à la Cattali ce qui lui appartient. C'était bien conçu parce que c'est une banque qui finance généralement directement les projets de la sphère privée, sans passer par les gouvernements, enfin en relation avec les gouvernements, sans passer par les gouvernements, ce qui donne beaucoup plus d'indépendance et beaucoup plus d'action directe aussi. Vraiment la Banque mondiale qui va financer des grands programmes, et puis après on ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà, pour caricaturer. Et donc c'était intéressant parce qu'on découvrait, c'est un peu un mix entre l'économie, la diplomatie, parce qu'il y a 60 États membres, donc il y a un board où tous les intérêts nationaux sont représentés, des États-Unis jusqu'à l'Ouzbékistan, donc ça fait quand même beaucoup de gens à mettre autour de la table. Et surtout, la chose la plus intéressante que j'ai faite, c'est que les 2 dernières années, j'étais en charge, enfin j'étais dans la toute petite cellule qui s'occupait de l'extension de la banque aux pays nord-africains suite au printemps arabe. Suite au printemps arabe, les pays occidentaux, grosso modo du G8, ont dit on va essayer d'aider les démocraties émergentes. Et donc, la conclusion, ça a été que la BERD allait extendre son domaine d'intervention au Maroc, à la Tunisie, à la Jordanie, à l'Égypte. Et donc, on a travaillé avec les gouvernements de ces pays-là, qui étaient en pleine mutation à l'époque, hein, puisque la Tunisie venait de basculer dans un nouveau régime. Bon, la Jordanie et le Maroc, c'est des transitions comme évidemment plus souples. Mais l'Égypte, pareil, était une rupture fondamentale, et puis qui a ensuite rebasculé en sens inverse. Et donc, on travaillait avec eux et avec les États donateurs, etc., pour essayer de concevoir des stratégies économiques, politiques, qui répondent à leurs besoins et à notre volonté. Donc, on rencontre plein de gens, on voyage beaucoup, c'est tout à fait intéressant. Et encore une fois, ça donne un vrai. Enfin, ça met un peu du plomb dans la tête sur le fonctionnement des économies, des institutions internationales et tout ça.
Et alors, en fait, question inverse, pourquoi avoir fait le choix de quitter cette institution, alors même que d'ailleurs votre vie familiale est à Londres, et de revenir à Paris?
Bah, c'est une bonne question, mais là je pense que c'est un choix plus personnel puisque j'avais une vie tout à fait sympathique à la Berne, mais je me suis dit que soit j'avais 30 ans, je me suis dit soit je fais le choix de devenir un bureaucrate, fonction assez noble, hein, et donc de m'installer à Berne, je sais pas, d'y être dans 20 ans ou dans des choses, ou à la Banque mondiale, ou dans cet univers. Soit je profite du fait que je suis encore relativement jeune pour essayer de lancer quelque chose de nouveau, que je dirige moi-même, une entreprise dont je sois le maître. Parce que c'est sûr que toutes ces grandes institutions sont quand même, enfin, comme toute vie de salarié, en fait, c'est très lourd. On a un boss, on a des réunions, on va au travail de 9h à 19h. Enfin, c'est pas gai tous les jours. Et puis, il y a un poids de l'institution qui est souvent extrêmement frustrant. D'ailleurs, c'est pas un hasard si la génération dite Y, à laquelle j'appartiens une année près encore, refuse de plus en plus ce mode de travail pour lancer ses propres entreprises, en fait, dans une approche beaucoup plus indépendante, autonome, capacité de travail. Donc voilà, je pense que c'était surtout ça. Et puis, j'avais fait une petite étude de marché, si je puis dire, sur les think tanks français. J'avais le sentiment qu'il manquait, enfin, la pensée que je défends était complètement absente de la scène française. En politique, bon, c'est pas la peine, on peut pas arriver comme ça en outsider, mais sur le plan des, même sur le plan des idées, elle n'était pas représentée par les think tanks existants. Soit des think tanks de droite pro-entreprise classique, soit des think tanks de gauche, mais qui n'avaient pas de, qui n'avaient pas de véritable think tank libéral, à la fois sur le plan sociétal, économique, institutionnel. C'était fort dommage et que ça nuisait même au. Ça nuit à la réflexion, enfin, ça nuit toujours d'ailleurs à la réflexion et à la qualité du débat public dans ce pays. Donc, on sait qu'il y avait à la fois une niche, quelque chose à faire, que c'était une pensée quand même qui était attendue, enfin, dont les gens ont la curiosité en tout cas quand on en parle. Et donc, et puis que ça correspondait quand même aussi au désir de revenir à quelque chose de plus intellectuel quand même que les spreadsheets de la Baird.
Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait à présent vous souhaiter et souhaiter à votre think tank Génération Libre?
D'abord, Génération Libre est très content de lui-même, puisqu'il y a 3 jours, il a été classé parmi les 50 meilleurs think tanks mondiaux de moins de 5 millions de budget par le classement international de référence. Donc, dans le petit monde des think tanks, c'est une vraie reconnaissance institutionnelle. Donc, je suis content, parce que moi, ce que je veux faire de Génération Libre, un vrai institut qui soit reconnu pour la qualité scientifique de ses travaux, pour l'originalité de son approche, etc. Donc, qu'il ne soit pas quelque chose qui va disparaître après 2017, qui est au relais de je ne sais quelle politique ou écrit. C'est un institut en soi qui est là pour durer, qui est là pour s'installer dans le paysage français, et que dans quelques mois ou années, les gens diront: ah bah tiens, que dit Génération Libre, que pense Génération Libre de tel ou tel sujet, que ce soit quelque chose d'important pour eux, que du coup on ait vraiment contribué à changer un peu l'opinion sur certains aspects. Et je pense que, notamment sur le revenu universel, on a vraiment largement contribué à ce que ce sujet monte aujourd'hui au point où il en est. Et je pense qu'on est absolument, que ce soit tout à fait réaliste, que ce soit un sujet pour la présidentielle de 2017 et qu'on y aura largement contribué. Donc c'est assez excitant parce qu'avec peu de moyens, peu de gens, on a un effet de levier quand même assez important et beaucoup plus important qu'en étant député lambda. Voilà. Donc je souhaite que ça continue et qu'on arrive à donner un visage humain au libéralisme et à modifier en conséquence les politiques publiques.
Alors, j'aimerais terminer sur une de vos facettes, puisque vous êtes un homme à plusieurs métiers, vous le dites souvent, et ça ressort souvent de vos interviews, et puis nous venons de le voir également ensemble. J'aimerais savoir que signifie pour vous votre activité de romancier, puisque vous écrivez déjà depuis un certain temps. Votre premier ouvrage est paru l'année de votre agrég. Vous aviez alors 22 ans chez Grasset, et vous faites paraître d'ailleurs cette année un roman également chez Grasset, Kidnapping, roman qui évoque les liens entre l'Est et l'Ouest, probablement. C'est une question largement inspirée de votre vécu personnel, puisque votre compagne est d'origine roumaine. La question que j'aimerais vous poser autour de cette activité, c'est de savoir s'il existe une certaine filiation entre votre parcours en tant que romancier et les activités que vous défendez avec votre think tank et vos idées libérales, ou est-ce que c'est à situer sur un plan distinct?
Non, c'est vraiment à situer sur un plan distinct. D'ailleurs, j'avais pas écrit de roman depuis un certain temps, mais ce roman-là m'a pris 4 ans parce que c'est quand même des processus beaucoup plus longs qu'un essai, par exemple. Faut s'installer dans les personnages, on les remanie, etc. Et il y a même qu'au contraire, c'est une manière aussi de rentrer des fois dans la chair des gens, des problèmes qu'ils peuvent traverser, qui permet de mettre en question sa propre doctrine. Donc, par exemple, dans ce roman Kidnapping, on voit effectivement une Roumaine qui vient à Londres et tout ça. Beaucoup de gens qui, en le lisant, disent: mais en fait, tu défends une espèce de retour à la terre, enfin, c'est pas du tout libéral. Et effectivement, le roman pose des questions par rapport. Enfin, le romancier pose des questions au doctrinaire. Doctrinaire, pour lui, les réponses sont assez faciles. Le système s'applique. Et ensuite, on met en musique, en politique publique. Mais le romancier voit les ambiguïtés des gens, la lenteur des processus, la confusion des sentiments parfois. Et donc, au contraire, ça permet de mettre en perspective le travail qu'on fait en tant que philosophe, entre guillemets, et aussi de lui donner plus de chair, de corps. Mais enfin, en tout cas, les activités sont séparées, séparées dans ma tête, et séparées d'ailleurs aussi pour les journalistes, parce qu'ils ont beaucoup de mal à sauter de l'un à l'autre. Mais bon, ça, c'est les médias français, c'est comme ça.
Gaspard Koenig, je vous remercie d'avoir accepté cette interview. Je rappelle donc la parution de votre dernier roman, donc cette année, Kidnapping, chez Grasset. Et vous pouvez par ailleurs suivre l'actualité du think tank Génération Libre sur le site dédié ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Merci.
Merci beaucoup.